double page info du week-end, Fabrice Lundy sur BFM Radio.
Voilà, et n'oubliez pas l'heure d'hiver, ce week-end de la Toussaint, long week-end de la Toussaint. Bah oui, Marc de Citivo, faudra pas oublier. Tiens, je commence par vous. Bonjour Marc.
Eh bien, bonjour Fabrice.
Marc de Citivo, co-président des Cahiers Verts de l'économie. François Langlais, le retour. Bonjour François.
Bonjour Fabrice, bonjour à tous.
Les vacances se sont bien passées.
Mais excellentes.
Bon, en tout cas, vous étiez remplacé de main de maître la semaine dernière par Monsieur Olivier Provost. François Langlais, directeur de la Tribune, vice-président de la Tribune exactement, auteur de La guerre des empires. Jérôme Fourquet, bonjour.
Bonjour.
Jérôme Fourquet, directeur adjoint du service politique de l'IFOP. Alors, voilà, ça nous a bien occupé ces dernières semaines. Et d'ailleurs, on vous remercie encore de tous les mains. Vous pouvez continuer, même pendant ce week-end de la Toussaint, si vous avez un petit peu de temps, à bfmradio.fr, vos commentaires. D'ailleurs, on remercie tous ceux du week-end dernier. Très, très riche. Hein. Il y avait Philippe Thiby, notamment, qui était avec nous, Olivier Lecomte, Olivier Provost. Donc, c'est vrai que émission de haut niveau. Alors, c'est fait. Bon, c'est vrai que ça nous a occupé les dernières semaines. Voilà, le texte sur les retraites qui est voté, la fin de la retraite à 60 ans. Dans un contexte de début de sortie de crise. Bon, ça ne signifie pas que tout est réglé. Il reste ça, là encore, des blocages. Donc, je le disais, donc le texte est voté. C'était mardi au Sénat et mercredi à l'Assemblée nationale.
Pour 336, contre 233, l'Assemblée nationale a adopté.
Voilà, Bernard Accoyer, le président de l'Assemblée nationale. La loi de la République doit être désormais acceptée par tous, disait dans la foulée François Fillon. On ne gagne pas contre les Français, lui répondait Martine Aubry, les députés socialistes d'ailleurs, qui vont saisir le Conseil constitutionnel ce mardi, Henri Emmanuelli, député des Landes.
Moi je pense qu'ils ont gagné une bataille parlementaire, mais qu'ils ont perdu la bataille politique. La bataille d'opinion, elle est perdue pour eux, hein. Y compris auprès de la jeunesse. Parce que vous nous expliquez qu'on travaille pour la jeunesse au moment où on va lui coller 100 milliards de dettes. La CADES, il faut le faire quand même.
Henri Emmanuelli, député socialiste des Landes. Il y a eu la 7e journée de mobilisation depuis la rentrée. Bon, sans surprise, jeudi, hein, c'était assez faible. Hein, moins de grévistes, moins de monde dans les rues. En tout cas, les syndicats veulent batailler néanmoins jusqu'au bout. Jean-Claude Mailly de Force Ouvrière.
Le combat n'est pas terminé. Je rappelle que la promulgation de la loi, c'est pas avant la mi-novembre. Alors moi, je ne suis pas en train de dire voilà ce qui va se passer dans les jours à venir. On en rediscutera également avec les autres organisations syndicales, mais c'est pas un baroud d'honneur.
C'est pas un baroud d'honneur, disait donc Jean-Claude Mailly dans la manifestation jeudi. Mais bon, on a senti quand même un changement de ton. François Chérec lundi qui proposait d'ouvrir des négociations sur l'emploi des jeunes, l'emploi des seniors, hein, main tendue saisie par le patronat, saisie aussi par le gouvernement. Alors il y a encore beaucoup de questions ce matin. Je le disais, le dossier n'est pas clos, loin de là. François Langlais, il y a des gagnants, il y a des perdants. Le texte a été voté. Qui vous voyez dans chaque camp?
Écoutez, il me semble quand même que les syndicats, l'appareil syndical, c'est le grand perdant. Doublement, parce qu'il n'a pas obtenu ce qu'il souhaitait, et de surcroît parce qu'il s'est laissé déborder par sa base, et qu'au fond, on a eu le sentiment qu'il ne maîtrisait pas à un certain moment le mouvement. Et alors au-delà de ça, bon, maintenant c'est derrière nous, ou à peu près. Ça laisse présager quand même d'extraordinaires difficultés pour les épreuves qui nous attendent. C'est ça, moi, qui me préoccupe. Quand on voit l'état des comptes publics et la difficulté du travail qui nous reste à accomplir, quand on voit ce qui a été fait, évidemment, dans les deux grands pays qui nous entourent, en Allemagne et au Royaume-Uni, on se dit, la France n'est pas au bout de ses peines. Et si, pour une réforme qui, je dirais, était relativement facilement intelligible, hein, celle de justement liée à l'allongement de la durée de la vie, on a eu autant de difficultés, c'est quand même pas très bon signe. Pourquoi, au fond? Je crois qu'il y a la morale de l'histoire, c'est que les gens, ou au moins une certaine partie de la population, ont eu le sentiment qu'on voulait leur faire payer la facture d'une crise dont ils n'étaient pas responsables. Et que, bon, voilà, ils voient les banques reparties, faire des profits, les traders payés à nouveau avec des bonus comme naguère. Au fond, rien n'a changé. Et la facture des comptes publics est là, on la leur présente comme étant la résultante de la crise, c'est ça qui passe mal. Il va falloir se préparer à cela, justement, pour les prochaines échéances.
Donc finalement, peut-être le plus dur est à venir. Marc de Citivo, co-président des Cahiers Verts de l'économie.
Moi, sauf que ce qui a été frappant depuis plusieurs mois, c'est, j'allais dire, les mensonges. Les mensonges continuels, mensonges sur le nombre de manifestants. La presse, d'ailleurs, n'a pas fait vraiment son devoir. Elle croit qu'il est suffisant de dire voici ce que dit la police, voilà ce que disent les manifestants.
Or, les seuls finalement qui ont peut-être bien travaillé, c'est Mediapart, dont on sait qu'ils ne sont pas forcément pro-gouvernementaux. Ils ont fait des études et on s'est rendu compte que finalement, ils étaient même en deçà des estimations de la police, des chiffres de la police.
Alors voilà, toutes les, y en a eu peu, mais en effet, les rares opérations menées...
François, vous dites...
menées avec des huissiers...